Bonjour à tous. Allez, je vous entraîne dans une lecture dans le livre de Job, au chapitre 33 et à partir du verset 14. Quand je vais le lire, je suis sûr que vous allez reconnaître ce passage pour ceux qui ont déjà lu le livre de Job entièrement. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et l'on n'y prend pas garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Alors il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions, afin de détourner l'homme du mal, de le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la fosse, sa vie des coups du glaive. Par la douleur aussi, l'homme est repris sur sa couche. Quand une lutte continue vient agiter ses os, alors il prend au dégoût le pain, même les aliments les plus exquis. Sa chair se consume, disparaît, ses os qu'on ne voyait pas sont mis à nu. Son âme s'approche de la fosse, sa vie des messagers de la mort. Mais s'il se trouve pour lui un ange intercesseur, un d'entre les mille, qui annonce à l'homme la voie qu'il doit suivre, Dieu a compassion de lui. Dit à l'ange, délivre-le, afin qu'il ne descende pas dans la fosse. J'ai trouvé une rançon. Sa chair a plus de fraîcheur qu'au premier âge. Il revient au jour de sa jeunesse. Il adresse à Dieu sa prière. Dieu lui est propice, lui laisse voir sa face. Avec joie, lui rend son innocence. Je vous lis juste la fin. Verset 29, voilà tout ce que Dieu fait deux fois, trois fois avec l'homme, pour ramener son âme de la fosse, pour l'éclairer de la lumière des vivants. Sois attentif, Job, écoute-moi. Tais-toi, et je parlerai. Si tu as quelque chose à dire, réponds-moi. Parle, je voudrais te donner raison. Si tu n'as rien à dire, écoute-moi. Tais-toi et je t'enseignerai la sagesse. J'ai choisi ce texte, voilà, en partie à cause de ce premier verset. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ça, je pense, tout le monde en est conscient. Mais il y a ce petit bout de phrase qui m'interroge depuis que j'ai lu ce texte. Ça fait très, très, très longtemps. Et l'on n'y prend pas garde. Ça sert à quoi d'avoir plein d'informations, plein de nouvelles, plein de médias, plein d'infos ? Dans certains cas, si l'on n'y prend pas garde. Dieu essaye d'attirer l'attention du monde, de l'Église, de chacun d'entre nous. Et je reprends ce petit mot. Et l'on n'y prend pas garde. Alors du coup, Dieu lui dit, Job, sois attentif. Tais-toi, fais silence à l'intérieur de toi. Et puis je vais te parler. Si tu as quelque chose à dire, dis-le, mais écoute. Je t'enseignerai la sagesse. C'est un travail pour Dieu que de faire pénétrer la sagesse dans nos cœurs, de nous éduquer à l'écoute, être attentif, être enseignable, être à l'écoute, être dans le discernement de la voix, de la parole de Dieu. Il y a un thème qui est présent dans le monde et dont j'aimerais vous parler ce matin. Ça s'appelle les signaux forts ou les signaux faibles. Signaux forts, je crois que pour tout le monde, c'est quand quelque chose est évident. Signaux faibles, c'est quand il faut tendre l'oreille, être attentif et voir si derrière telle ou telle nouvelle, telle ou telle parole, telle ou telle info, il n'y a pas quelque chose d'intéressant pour nous. Dieu parle tantôt par des signaux forts, mais je pense que bien souvent, il parle dans nos vies par des signaux faibles. Mais on a tellement envie de se défendre, de se justifier, de parler, de dire des choses qu'à un moment donné, Dieu dit « Hé !» En langage vulgaire, on dit « Là, la ferme. » Comment est-ce que l'on est dans cette relation avec Dieu ? Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et je n'y prends pas garde. Qu'est-ce qui pourrait faire que tout d'un coup, j'y prenne garde ? Est-ce que je peux m'habituer à discerner les signaux faibles dans ma relation avec Dieu, avec son esprit ? Compréhension du langage utilisé par Dieu pour nous parler, pour nous interpeller. Si c'était pour nous secouer, ça serait peut-être plus évident. Là, c'est les signaux forts. Il y a des fois où Dieu nous secoue. Les signaux faibles, c'est un langage du monde économique, des entreprises, du commerce, de la technologie, des ordinateurs. On dit aujourd'hui le big data. Plein d'informations qui circulent sur la toile. Certaines sont importantes, d'autres sont faibles, ténues. Seuls les spécialistes y font attention. Dans le monde du renseignement, du terrorisme, aujourd'hui, on met des milliers de personnes dans tous les pays pour essayer de décrypter, déchiffrer les signaux faibles. Est-ce que quelqu'un va passer à l'action ? C'est qui ? Et puis, on monte des dossiers dans le domaine de la surveillance informatique, téléphonique. Qui, quoi, comment, où ? On essaye de trouver tout ce qui se passe ici-bas. Les signaux forts, c'est explicite. Mais dans le domaine de la santé, de la diplomatie, il y a des diplomates dans tous les pays qui essayent de voir tel ou tel pays, c'est quoi le signe faible, qu'est-ce qui se dit, qu'est-ce qui se prépare. Dans le monde de tous les jours, on appelle ça les signes avant-coureurs. C'est important au niveau du temps, au niveau des choses naturelles, au niveau des tempêtes, au niveau des tremblements de terre, des éruptions volcaniques. Si on arrive à déchiffrer les signes avant-coureurs, alors on met des appareils, et puis on met des signaux d'alarme, et puis on se dit, voilà, si ça se déclenche, il y aura telle ou telle chose. Les signaux faibles sont les plus compliqués. Ils ne sont pas toujours compris, discernés. Discerner les opportunités. Peut-être parfois aussi les menaces. On parle d'écoute anticipative, de cellules de veille, d'éveil des gens qui sont là et puis qui écoutent les bruits du monde et qui essayent d'informer les entreprises, les nations, les gouvernements, parfois les pays. Il faut des décodeurs, des amplificateurs. Chez moi, j'ai dû mettre un amplificateur sur la télé, sinon c'était brouillé. J'ai acheté un petit boîtier qui amplifie le son. Est-ce que la voix de Dieu dans ma vie, est-ce que l'amplificateur est sur zéro ou bien il est à fond ? C'est une image, hein, mais est-ce que j'arrive à décoder les signaux faibles ? Petits avertissements, les petites paroles que Dieu me donne tout au long de ma vie et qui peuvent m'aider à voir ce qui n'est pas apparent. On a eu une parole ce matin, le Seigneur disait, est-ce que tu vois ce qui est invisible ? Est-ce que tu vois mes mains sur ta vie ? S'il le dit de manière forte et intelligible, c'est peut-être que parfois on ne voit pas ces mains de Dieu agir dans nos vies, dans l'Église, dans le monde. Quel sens a précisé ? Qu'est-ce que cela veut dire ? Comment est-ce que je peux aiguiser ma perception ? Même si parfois ça doit peut-être me poser des questions, recueillir l'information. La collecte de l'information. mais il faut des décodeurs, des amplificateurs, pour savoir quel sens ça a, quel sens ça veut dire. 2008, etc., je ne vous referai pas toute l'historique des cracks boursiers, mais il y a des gens qui avaient décodé, qui le savaient. Il y a aussi ce qu'on appelle dans le monde de la finance les délits d'initiés, le type qui a l'information. Et s'ils sont deux, trois à la partager, les fortunes, des milliards, peuvent changer de dollars, d'euros, peuvent changer de portefeuille. C'est ce qui est arrivé dans le monde, c'est une réalité. Il y a des cellules de veille sanitaire. Ces derniers temps, il y a eu des signaux sur le lait lactaliste, des enfants ont été malades, et puis tout d'un coup, là, ça a pris en quelques semaines une proportion. Les gens ont averti, et puis on a traîné au point que ça devient presque une affaire d'État. Cellules de veille sanitaire pour la grippe, pour plein de choses. Est-ce qu'il y a une veille concernant la parole de Dieu, l'action de Dieu dans ma vie? Est-ce que je suis attentif? Est-ce que Dieu doit crier dans ma vie? Moi, j'ai vécu à peu près tous les signaux forts et faibles. Dieu a parfois crié dans ma vie pour me secouer, pour m'alerter, pour m'avertir. Et puis l'autre fois, c'était plus fin, plus ténu. Parfois, je suis passé à côté. Et puis parfois, voilà, on se dit, tiens, là, il faut que je sois attentif, il faut que je sois dans l'écoute. Pour Job, c'était pas facile. Il était abreuvé de signaux faibles, mais aussi de signaux forts. Trois amis. Est-ce que c'était réellement des amis? Parfois, peut-être plus des accusateurs. Il y en avait un qui lui parlait de l'expérience humaine. Il s'appelait Eliphaz de Théman. Il lui disait, ouais. Tous les hommes ont vécu plein de choses. Si tu étais attentif à ce qu'ils vivraient, tu trouverais la solution à tes problèmes. Un autre lui parlait de la tradition. Voilà, on fait comme ça, on sait plein de choses. Si tu écoutes tout cela, eh bien, il s'appelait Bildad de Suar. Et puis un autre lui disait, Job, si t'arrives ça, c'est que t'as pas très bien fait dans ta vie. Il lui parlait de la morale. Il y a un autre qui était plus avisé, plus malin, il s'appelait Elihu, il avait une meilleure compréhension, mais bon, je ne sais pas si ça a beaucoup aidé Job. Il y a une phrase célèbre dans le monde qui dit « Mon Dieu, gardez-moi de mes amis, mes ennemis, je m'en charge ». Apparemment, ça remonterait au XIIe siècle, puis ça a été repris par tous les plus grands hommes. Job a eu tout plein de signaux, mais lequel était le bon? Apparemment, aucun des quatre. Aucun de ses trois amis, plus ou moins accusateurs, à côté de leurs chaussures. Et puis même Elihu, qui semble un discours plein de sagesse, mais ça ne l'a pas forcément aidé. Vous connaissez la fin de l'histoire. Job 42. Job répondit à l'Éternel et dit « Je reconnais que tu peux tout, que rien ne s'oppose à tes pensées. Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Oui, j'ai parlé sans les comprendre, des merveilles qui me dépassaient, que je ne conçois pas. Écoute-moi et je te parlerai. Je t'instruirai, je t'interrogerai et tu m'instruiras. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil t'a vu. » Le signe faible a enfin trouvé un épilogue et une conclusion. Job, tout d'un coup, se dit, c'est toi qui étais derrière tout ça. Et moi, je ne l'avais pas vu. Il y a eu des signaux perturbateurs entre des amis qui ont voulu le conseiller. Des signaux faibles aux signaux forts. Tout d'un coup, il y a un état de compréhension. C'est pourquoi je me condamne, je me reprends. je me repens sur la poussière et sur la cendre. » Au verset 12, il est dit « Pendant les dernières années, Job reçut de l'Éternel plus de bénédictions qu'il n'en avait reçues dans les premières. » Les choses se sont arrangées pour lui. Mais ça a été un chemin long, douloureux, avec de la souffrance, sans doute pénible, avant que le message que Dieu voulait lui adresser soit pleinement compris. Dans l'Écriture, il y a beaucoup d'expériences, des rencontres avec Dieu qui sont des signaux forts, des rencontres avec Dieu qui sont des signaux où le message n'est pas forcément facile à déchiffrer, et puis d'autres où c'est juste un souffle. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais juste vous rappeler cette rencontre de Jacob, milieu de sa vie, il est avec sa famille, il est obligé de partir. Et puis tout près d'un torrent, il y a un homme qui le rencontre, avec lequel il va lutter avec lui, seul. Il y a un équilibre des forces. Pendant un temps, il n'y a ni gagnant, ni perdant. Et puis, à un moment donné, Jacob est frappé à la hanche. Il va boiter le restant de ses jours. Et en même temps, l'Écriture dit qu'il a lutté avec Dieu et qu'il a été vainqueur. Là, le signal, il est fort. Il est en face à face. Il est en direct. Ça peut être aussi comme cela dans nos vies. Et Dieu touche un point faible qui restera un point de faiblesse pendant le restant de nos jours. Un autre homme était habitué à rencontrer Dieu en face à face. L'Écriture nous dit comme un ami. C'était Moïse. J'aimerais juste relire avec vous un épisode de sa vie dans Exode 33. J'aime beaucoup cette rencontre de Moïse avec Dieu de cette manière. Exode 33, verset 18. Moïse dit « Fais-moi voir ta gloire. » L'Éternel répondit « Je ferai passer devant toi toute ma bonté. Je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce, miséricorde à qui je fais miséricorde. Mais l'Éternel dit « Tu ne pourras pas voir ma face. » Car l'homme ne peut pas me voir et vivre. L'Éternel dit, voici un lieu près de moi, tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux de rocher, je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'aie passé. Lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière, mais ma face ne pourra pas être vue. Et au chapitre 34, l'Éternel descendit dans une nuée, se tint là près de lui, proclama le nom de l'Éternel. L'Éternel passa devant lui, s'écria, « L'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux, compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion, le péché, qui ne tient pas coupable pour innocent, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e, 4e génération. Aussitôt, Moïse s'inclina à terre et adora. » À cette période de sa vie, pour Moïse, ce n'est pas facile. Il a un peuple à conduire, un pays à conquérir. Et il dit à Dieu, « Voilà, fais-moi voir ta gloire, j'ai besoin d'une révélation plus forte. » Et Dieu lui révèle cette qualité de Dieu, miséricordieux, compatissant, lent à la colère, riche en bonté, en fidélité, en amour et en pardon. Cette qualité de Dieu et son nom est proclamé. Est-ce que c'était le signal que Moïse attendait ? Fais-moi voir ta gloire. Il s'attendait peut-être à une révélation comme Ézéchiel. Voir Dieu sur un trône élevé avec des chérubins, avec du feu, du tonnerre, des voix extraordinaires. Des hommes de Dieu ont reçu des visions de Dieu tellement glorieuses que c'est difficile de dire qu'est-ce qu'ils ont vu. Et là, Moïse a simplement cette révélation. Dieu miséricordieux, compatissant, lent à la colère, riche en bonté, en fidélité, en amour, en pardon. Cette canité aussi de la cette plénitude d'amour de Dieu. Est-ce que c'est à cela que Moïse attendait? Est-ce que parfois Dieu nous parle de manière à ce que... Mais Seigneur, c'est pas ça que je demande. Je voulais voir ta gloire. Je voulais voir du feu, des tremblements de terre, des éruptions volcaniques, des choses extraordinaires. Il est dit de Moïse qu'il va devenir l'homme le plus doux de la terre. Je pense que cette révélation-là en fait partie. Un peuple à guider dans le désert, un pays à conquérir. Il aura aimé peut-être voir le chef de l'armée de l'Éternel, comme l'a vu Josué. Là, c'est... Non, Dieu lui a démontré les qualités internes de l'être profond de Dieu. Et je pense que c'est cela qui a aidé Moïse. Jean-Marc nous a parlé dernièrement d'Élie, qui vit des choses fortes, combat avec 450 prophètes de Baal. Il en est vainqueur et les 450 prophètes finissent égorgés. Puis après, on vient de dire, tu sais, la femme du roi, Jézabel, elle te cherche et si elle t'attrape, c'est toi qui passes à la casserole. Et Élie s'est dit, c'est le temps de prendre la fuite. Il part au Mont Carmel. Il était seul dans ce combat avec les prophètes et il va pouvoir déverser sa plainte sur Dieu. J'aimerais juste lire avec vous 1 Roi, chapitre 19. Achab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie, comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire « Que les dieux me traitent dans toute leur rigueur, si demain à cette heure je ne fais de ta vie ce que tu as fait la vie de chacun d'eux. » Élie, voyant cela, se leva, s'en alla pour sauver sa vie. Et il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il y laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert. Après une journée de marche, il s'assit sous un genêt, demanda la mort en disant « C'est assez. Maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Il se coucha et s'endormit. Et puis Dieu va essayer de l'aider. Un ange vient le voir, lui dit « Lève-toi, mange. » On lui donne un gâteau, de l'eau. Une fois, deux fois. Et puis il marche comme cela 40 jours, 40 nuits. Et puis il rentre dans une caverne. Et puis tu lui dis « Mais qu'est-ce que tu fais là, Élie ?» Et puis là, il peut, on dit, répandre, déverser sa bile sur Dieu. « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées. Les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels. Ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul et ils cherchent à m'ôter la vie. » Pas toujours facile la vie avec Dieu. Parfois c'est aussi de la solitude, des difficultés, de l'incompréhension. L'Éternel dit, « Sors, tiens-toi sur la montagne devant l'Éternel. » Et voici l'Éternel passa. Beaucoup de signaux. Devant l'Éternel, il y eut un vent fort, violent, qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Après le vent, un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Après le tremblement de terre, le feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. On aimerait tellement que Dieu nous envoie des signaux forts, des choses extraordinaires. Fais-moi voir ta gloire. Je veux voir quelque chose qui déchire, qui remue, c'est ce qu'on dit aujourd'hui. Je veux voir ta puissance, tes armées, tes capacités à vaincre dans le monde. Et trois fois, il a dit, et l'Éternel n'était pas dans le vent, pas dans le tremblement de terre, pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Dieu simplement soufflait quelque chose de faible, de petit, d'insignifiant. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau. Il sortit et il se tint à l'entrée de la caverne. Une voix lui fit entendre ces paroles. « Que fais-tu ici ?» Beaucoup de signaux faibles que Dieu envoie dans nos vies. Ah, tu fais quoi? Tu veux quoi? Comment tu es? Où tu es? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Mais est-ce qu'on est encore dans l'écoute? Je rappelle cette parole de Job. Et l'on n'y prend pas garde. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais on a du mal à saisir, on a du mal à écouter. Pourtant, Seigneur, je suis zélé. On a zigouillé 450 prophètes de Baal, victoire éclatante. Mais je suis seul. Quel niveau d'intensité il nous faut dans les signaux de Dieu pour que l'on soit à l'écoute? Fort, moyen, faible, insignifiant. Peut-être qu'il nous faut tendre l'oreille. Et puis Dieu va l'envoyer en mission. Il répond à ses questions. Puis il dit, bah, si tu vas plus loin, tu verras que tu as 7000 compagnons qui n'ont pas plié le genou devant Baal. Seigneur, je ne les avais pas vus. Va les rencontrer, va les voir. Et puis tu vas aller loin pour roi, un tel. Et hop, j'allais dire, c'est reparti, on dit comme en 14, hein, c'est ça. Et il y repart, gonflé, restauré. Il n'avait pas perçu tout l'environnement qui était encore possible pour lui. Pensait être le seul. Combat solitaire. Mais Dieu lui dit, voilà, il y en a 7000 qui vont t'accompagner. Et tu vas oindre pour prophète à tes côtés, Élisée. C'est le couple, enfin le duo prophétique qui a été un des plus extraordinaires. Ils sont tout le temps cités. Élie a été un homme extraordinaire. Ça ne l'a pas empêché de vivre des moments difficiles, puis des moments pour discerner la voix de Dieu. Même pour lui, ce n'était pas facile. C'était un homme comme nous. Du vent, tremblement de terre, du feu. Peut-être on aimerait parfois que Dieu s'intéresse à nous de cette manière-là. Puis Dieu fait un souffle qu'on entend à peine. Le Seigneur disait ce matin, mais est-ce que tu vois mes mains qui agissent dans ce monde et sur ta vie? Le signal faible de Dieu par excellence est son Fils, le Christ Jésus. J'avais prévu, choisi de lire un texte. Jean-Marc m'a devancé, il l'a lu juste au moment de la Sainte-Seine. Mais je vais en reprendre quand même quelques éléments, puisque on est tout à fait dans ces signaux faibles. Qui a cru ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? La venue, la présence du Fils de Dieu dans ce monde est le signal faible de Dieu aux hommes. Même pour Israël, c'était difficile de reconnaître en Christ le Messie. Il s'est élevé comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais ça, c'est pas un média flamboyant, tonitruant. C'est quelque chose de fin, de ténu. Son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé, abandonné des hommes, semblable à celui dont on détourne le visage. On ne le voit pas. Dieu est présent depuis 2000 ans par sa parole, par le Christ, par l'Église, par l'annonce de l'Évangile. Qui a cru? Qui l'a reconnu? Nous ce matin, mais combien d'autres? Et aujourd'hui, qu'en est-il? sans identité, sans reconnaissance. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Qu'est-ce que je fais des signaux faibles que Dieu envoie dans le monde, dans l'Église, dans ma vie? Est-ce que je suis attentif? Est-ce que je suis à l'écoute? Est-ce que je veux entrer dans la sagesse, la crainte de Dieu, une écoute respectueuse de Dieu? Moïse disait « Fais-moi voir ta gloire » et Dieu lui a révélé sa miséricorde, son amour, son pardon. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. C'est dans Jean 1. Elle était dans le monde a été fait par elle, le monde ne l'a pas connue. Le monde a du mal à discerner la présence de Jésus ici-bas. Elle est venue chez les siens ne l'ont pas reçue. Pour Israël, c'était difficile, c'est difficile encore aujourd'hui. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. La parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Nous avons un privilège sur Moïse qui disait « Fais-moi voir ta gloire ». Et Dieu le protège, le met dans le creux du rocher. Dieu nous met en Christ et nous dit « Voilà la gloire ». La gloire de mon Fils, la gloire de la vie, de la lumière, de la parole. Dans ce chapitre de Jean, Jean-Baptiste essaye d'attirer l'attention d'Israël sur la venue du Messie, celui qui doit venir en gloire, mais aussi celui qui est l'agneau de Dieu. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Nous avons, si nous avons reçu Christ, nous avons reçu cet agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Je vous laisse cette réflexion sur les signaux forts, les signaux faibles. Je crois que le Seigneur essaye encore dans le monde, dans l'Église, dans chacune de nos vies, il essaye de se faire entendre. Voilà, c'était sur un message sur le fait d'être dans l'écoute, d'être attentif, d'avoir une cellule de veille, d'avoir un décodeur, un amplificateur, et puis d'être bien à son écoute.